RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules en direct sur RMC et RMC Story, la radio et la télé pour les GG, pour les Grandes Gueules. Depuis 9h, vous pouvez d'ores et déjà rattraper la première heure des Grandes Gueules en podcast via notre appli, l'appli RMC sur votre téléphone portable ou bien sur le site internet rmc.fr. Avec Joël Dagosséry, coach de vie, avec le docteur Jérôme Marty, avec l'ancien instructeur du RAID Bruno Pomard, on discute, on débat, on le fait avec vous bien sûr au 32-16 tout à l'heure. On réécoutera le témoignage de celui qui s'est fait appeler Grégoire depuis qu'il est dans la vie active. Il a témoigné ce matin chez Apolline de Malherbe. Il dit, tiens, j'ai un prénom arabo-musulman, mais j'ai dû le changer parce que sinon, ma vie professionnelle était impossible. Donc, est-ce que ça a déjà été votre cas? Pourquoi 32-16 pour parler tout à l'heure avec les Grandes Gueules à partir de 11h20. En attendant, on va discuter GPA.
RMC.
GG, 7 et match.
Alors, on a des équipes des GG aujourd'hui qui sont fracassées, partagées à propos de cette histoire de la GPA fracturée. On a un Jérôme Marty qui n'a pas d'avis. On a un Bruno Pomard qui est radicalement opposé. On a une Joël Dagosséry qui pense pas que ce soit de la traite d'êtres humains. Et on a l'Europe qui provoque la polémique, l'Union européenne. Pourquoi? Parce que le Parlement européen a considéré l'exploitation de la GPA, la gestation pour autrui, comme une forme d'être humain. Mais il faut lire attentivement ce que dit l'Union européenne. Les eurodéputés, dans cette révision de la directive contre le trafic d'êtres humains, estiment que aujourd'hui, à partir du moment où vous zapatez une personne avec de l'argent, une personne qui est en situation de fragilité ou de précarité ou de manque financier, eh bien, vous êtes dans l'exploitation d'êtres humains. Donc, précisément, il est écrit en ce qui concerne la traite aux fins de l'exploitation de la gestation pour autrui. La présente directive cible les personnes qui forcent les femmes à être mères porteuses ou qui les amènent ainsi à agir par ruse. Quand c'est par ruse, c'est parce que vous trompez la personne ou vous profitez de sa faiblesse. Alors, est-ce que la GPA, la gestation pour autrui, peut s'apparenter à de la traite d'êtres humains? Oui ou non? Bruno, c'est toi qui es le plus radical dans cette affaire, là où nos GG sont plutôt partagés. Pourquoi tu dis que c'est de la traite d'êtres humains? Allez, on y va.
Alors d'abord la révision, elle a été votée par 563 députés et 7 opposés. Déjà, ça veut dire que ça fait quand même la totalité des députés du Parlement européen qui sont d'accord sur le principe que la gestation pour autrui, c'est quelque chose qui doit être hyper contrôlé, hyper cadré. On peut pas faire autrement. Il y a plein de choses qui existent à côté. C'est pour ça que je trouve que cette loi tombe à pic. Ça évite les dérives totales qu'on connaît dans ce domaine, malheureusement. Et on le sait, les trafics d'enfants, les trafics de la personne même, de la femme elle-même. Et je trouve que c'est un moyen de très bien cadrer, encore une fois, ces eurocrimes, comme on les appelle, avec les mariages forcés, les adoptions illégales, etc. Donc il y a quand même des éléments qui sont importants dans cette loi. Et moi, je trouve qu'encore une fois, le fait de pouvoir empêcher les dérives, comme on les voit encore une fois dans pas mal de pays, c'est une bonne chose. Et encore une fois, il y a tellement de choses qui existent avec l'adoption qu'on peut trouver, je dirais, chaussures à son pied, entre guillemets. Excusez-moi du terme, mais voilà.
Réponse de Joël.
Non, c'est vraiment une question très difficile. J'ai un avis qui est tout personnel parce que je l'ai déjà dit ici, j'ai fait de l'endométriose et j'ai eu un traitement de fertilité. J'ai fait une fécondation in vitro. Donc, je sais exactement ce que c'est le parcours du combattant quand tu veux avoir un enfant. Et si j'avais dû aller, je me suis souvent posé la question, si j'avais dû aller jusqu'à la gestation pour autrui, est-ce que je l'aurais fait? Peut-être que je l'aurais envisagé. Parce que rien n'explique, en fait, ce besoin, cette envie d'avoir un enfant que tu portes et malheureusement que ton corps te refuse pour telle ou telle maladie. Donc je veux vraiment pas, je comprends qu'on puisse aller jusque là où je dis que je refuse aussi de le voir comme une traite, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi du consentement. Je sais que souvent on en parle comme de l'exploitation, etc. Mais je pense qu'il y a aussi du consentement. Il faut s'assurer du consentement, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des femmes qui, notamment, j'ai vu des témoignages aux États-Unis de femmes qui le faisaient réellement parce qu'elles pensaient qu'elles pouvaient aider d'autres femmes ou d'autres familles à avoir un enfant alors qu'elles n'en avaient pas besoin financièrement. financièrement, elle n'en avait pas besoin. Donc,
plus fréquent quand même.
Oui, j'entends. Mais ce que je veux dire, c'est que le voir uniquement sous l'angle de l'exploitation, de la traite, comme si la personne qui faisait appel à une gestation pour autrui était vraiment le mauvais, presque le maître dans la plantation, etc. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc, c'est en ce sens que j'ai dit non, ça n'est pas de la traite.
Il y a quand même une contradiction parce que à la fois, donc, le Parlement européen reconnaît que la gestation pour autrui et finalement un crime, au même titre que la prostitution, l'esclavage, hein, c'est en gros c'est ça.
Il y a exploitation de la personne.
Parce que traite des êtres humains, oui. C'est on dit la même chose pour la prostitution et l'esclavage, oui, au niveau du Parlement européen. Et en même temps, le droit européen oblige les pays comme la France à reconnaître à l'état civil les enfants nés par GPA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as fait une GPA aux États-Unis, l'enfant qui est né donc d'une GPA, et ça c'est interdit en France, mais sera reconnu par le droit français, parce qu'on estimait que cet enfant qui n'avait rien demandé, on pouvait pas le rendre apatride, il fallait bien qu'il ait la nationalité. Alors, au départ, il avait la nationalité du pays de naissance, c'est américain, mais il n'a pas la nationalité de ses parents, oui. Et maintenant, il peut avoir la nationalité française. Donc là, il y a une obligation, maintenant c'est obligatoire, c'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, et en même temps, on estime que la GPA doit rester interdite. Moi, j'y vois quand même une forte contradiction. C'est-à-dire qu'on voit bien, et c'est tout le problème
des lois.
Ce que vient dire derrière Joël, je pense que ce qui est en jeu, c'est pas le désir des enfants, des parents, pas tous, parce que moi, quand je vois qu'il y a des stars américaines qui font la GPA parce que les emmerde d'avoir une grossesse, mais d'accord. Il y a ça aussi.
Et oui. Pour pas déformer son corps.
Donc là, on est quand même dans le business et dans la location de ventre. Hein, on est plus dans ça. Oui. Après, je ferai la distinction entre ça et puis, effectivement, des couples homosexuels n'arrivent pas à adopter, parce que quand tu es un couple homosexuel, c'est très compliqué d'adopter. Des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Bien sûr, le désir est très fort d'enfants. Après, la question est de savoir, est-ce que c'est éthique de payer quelqu'un pour porter un enfant,
c'est toute la question. Et d'autre part, c'est un problème tellement complexe que moi je dis que je ne pouvais pas aller dans un camp ou dans l'autre. Pour l'instant, je reste dans le camp de Joël parce que les arguments qu'elle a donnés sont les miens et je ne
retire
pas. Ouais, pas un seul mot de ce qu'elle a dit. Des couples qui passent par GPA et qui vont à l'étranger, beaucoup de gynécologues en connaissent et dans leur carrière en voient des tas et des tas. Le fait d'avoir envie d'avoir une descendance qui porte ton patrimoine génétique, je veux dire, c'est normal aussi. Donc c'est là où ça vient contrecarrer un peu. Et c'est le fait de dire, il y a des enfants à adopter. Après tout, vous pouvez très bien adopter un enfant. Mmh. Oui, mais c'est plus complexe que ça. Et je te rejoins aussi. Oui. Hein, je te rejoins aussi. C'est un drame absolu, le fait que tous les enfants qui sont à adopter ne le soient pas, etc. C'est certain. Mais il y a cette problématique de la descendance avec le patrimoine génétique, au moins d'une part. De l'un ou de l'autre.
Pas forcément, parce que la GPA, homme. Ça peut être ça peut être autre chose, ça peut être.
Mais là où cette loi est fondamentale, c'est qu'elle pose des bornes. Elle retire toute possibilité de GPA dès l'instant où il y a exploitation.
Ça évite
l'exploitation avec de la faiblesse de l'autre, etc. Et tu pourrais très bien te dire que si l'on autorisait la GPA, le fait, quand tu disais, quand tu parlais des actrices qui vont faire une GPA pour ne pas avoir leur ventre déformé par la grossesse, etc. Si ça passait véritablement par le prisme, justement, de la médecine ou autre, tu aurais l'autorisation ou non pour tel ou tel problème.
T'es sûr de ça?
Problème. Oui, je crois que la mesure où toutes les évasions sont possibles sur le plan mondial, je veux dire, il faut que l'on soit factuel. Tu ne peux pas l'empêcher réellement. Donc, ce qu'il faut, c'est poser des bornes.
Il y a un cadre.
Et cette loi, elle pose un cadre, et c'est en ça qu'elle est intéressante. Mais elle n'interdit pas. Tu vois ce que je veux dire? Elle pose un cadre.
Et au sein du gouvernement, l'exécutif, ils ne sont pas d'accord, parce que d'un côté, Emmanuel Macron a plusieurs fois réaffirmé que la légalisation de la GPA était à ses yeux une ligne rouge, et Gabriel Attal, qui est maintenant notre Premier ministre, avait déclaré à Libé en 2019 qu'il ne serait pas contre une GPA éthique. Donc on voit bien au sein même de l'exécutif.
Et il y a quand même, sur le fond, il y a une rémunération.
Oui,
ça aussi, peut interpeller, on peut en discuter. Il y a une rémunération, il y a même une discussion au niveau de la rémunération. Il y a parfois
il y a aussi
des sommes.
Un contrat qui est signé.
Il y a un contrat qui est signé, une somme de 75 000, voire 100 000 euros ou $100 000.
Il y a des assurances.
Il y a des assurances.
Ça se passe pas bien.
Il y a la question aussi ensuite de femmes qui se disent quelques mois après, mais finalement c'est un bébé que j'ai porté que l'on.
Non,
que
ça
l'on,
pose des normes pour les métiers.
La marchandisation.
Voilà la réification.
Il y a la marchandisation. Ça c'est l'argent.
Ça pose toujours l'exemple américain où ça se passe bien, mais pardon, il y a des exemples ukrainiens ou ailleurs où ça se passe moins bien, parce que l'exemple américain, effectivement, c'est très cadré, etc. Puis on est dans le pays des avocats, donc il y a un contrat. Mais pardon, mais il y a plein d'autres pays où c'est pas du tout ça. Où là, du coup, on est dans le business, on est dans le marché de la misère. Ah oui, bien parce sûr, que toutes les GPA ne se font pas aux États-Unis.
C'est Louis qui va en parler avec nous. Bonjour Louis.
Bonjour les GG.
Qu'est-ce que vous en pensez, Louis, justement, de cette GPA? Est-ce qu'on peut lier ça dans certains domaines ou cadrer à une traite d'êtres humains ou pas?
Non, pas du tout, parce que la GPA peut être utile dans certains cas, comme notamment pour les couples homosexuels ou pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants biologiquement. Voilà, tout à l'heure j'entendais que la solution aussi peut être l'adoption. Non, moi j'ai été adopté et je pense pas que ce soit une solution.
Pourquoi
oui.
Psychologiquement, moi j'en souffre encore, j'ai 38 ans, et je pense que j'en souffrirai encore pendant pas mal de temps. Je connais pas mal d'enfants adoptés autour de moi, c'est pareil.
Ouais, c'est
vrai. Après, c'est vrai que psychologiquement, ce sera toujours plus facile à accepter pour un enfant si effectivement il voit bien que, par exemple, il a deux parents homosexuels ou des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfant biologiquement. Voilà, ce sera toujours beaucoup plus facile à accepter pour l'enfant que l'adoption. Donc, oui.
Une question, Louis. Joël. Quand vous dites que vous souffrez de l'adoption ou vous souffrez de l'abandon qui a mené à l'adoption?
Oui, je souffre du syndrome de l'abandon.
Oui, c'est ça.
Mais c'est ça, parce qu'il y a toujours un abandon.
Ah, oui, bien sûr.
De façon ou d'une autre.
Oui, voilà, il y a toujours un abandon. Alors que la GPA, c'est pas forcément un abandon. C'est surtout quand c'est pour des couples homosexuels ou pour des personnes qui.
Et quand la grossesse se passe mal, imaginons en cours de route, qu'est-ce qui se passe? Il y a un contrat, c'est-à-dire qu'on récupère pas l'enfant parce que l'enfant, il sera pas comme on voulait qu'il soit. Vous voyez, mais ça pose des questions éthiques.
Alors,
oui, alors
bien
sûr, ça pose des questions éthiques. Ça, effectivement, il faut que ce soit cadré là-dessus. Après, c'est vrai que moi, je me suis pas assez renseigné là-dessus pour savoir ce qui se passe dans ces cas-là. Mais ça doit être cadré, absolument.
Ce qui est gênant en plus dans le débat, c'est que. Il est accaparé par là. Pourquoi il est revenu devant la scène? C'est Mario Maréchal qui a fait un tweet, qui a fait une réflexion.
Où est la maman?
Où est la maman?
Et en fait, du styliste Jacquemus, voilà. Qui vient avec son mari d'avoir un enfant.
Qui mettait en avant avec une photo. Et donc en fait, quand c'est Mario Maréchal qui lance ce débat, c'est fini parce qu'on est dans l'hystérisation.
Dans la politique.
Donc, on est dans la politique. Oui, mais dans la politique binaire.
Voilà,
c'est-à-dire qu'on a eu d'un côté Mario Maréchal qui dit ça. On a le lot de Clément Beaune qui visiblement est assez militant et engagé, alors que quand même,
c'est exactement ce qu'elle fait.
Ouais, mais donc c'est pas très intéressant ce débat. Alors que c'est un vrai débat éthique qui demanderait de la nuance, de la réflexion, et c'est accaparé par des politiques qui ne sont que dans l'insulte, l'invective. Donc on va traiter Marion Maréchal de fachotte, et de l'autre on va créer le
Clément Beaune. Allez-y Louis.
Je dis, c'est ce que j'allais dire là après avec Marion Maréchal et tout le gratin. Là, c'est vrai que c'est pas cool parce que c'est de la politique. Donc, on peut jamais savoir vraiment.
De la récupération.
Voilà, c'est de la récupération politique. On peut jamais vraiment savoir le fond de leur pensée. Et puis, un jour, ça va être ceci, et puis un autre jour, ça va être l'inverse. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une question très importante, la GPA.
Merci Louis d'avoir été avec nous.
Pour rebondir sur ce que dit Olivier, c'est un problème trop complexe pour réagir dessus en quatre mots.
Oui. Voilà.
Juste où est la maman, si tu veux. Elle sait très bien qu'elle instrumentalise le truc. Elle sait qu'elle va foutre le feu sur les réseaux en disant ça.
Bien sûr.
Elle sait qu'on va placer Marion Maréchal, le nom Marion Maréchal à plusieurs reprises, et qu'elle va monter un petit peu dans la visibilité encore plus, etc. Donc c'est une basse exploitation d'une vraie problématique qui demande un vrai débat.
On n'arrivera jamais.
En plus, elle répond pas parce que où est la maman, elle répond pas. Il y a des couples hétérosexuels qui peuvent avoir faire appel à la GPA, donc elle est
un peu. Et à la fois, c'est d'une violence extrême. Oui. Pour la personne,
toi, Jacquemus, rappelons qu'en France, c'est interdit. D'accord. Oui. Mais en tant que le médecin que tu es aujourd'hui, est-ce qu'il y a un débat au sein de, la, de votre communauté de médecins, tu vois, qui fracture ? Est-ce qu'il peut y avoir même pour certains une espèce d'objection de conscience, c'est-à-dire moi je veux pas participer à la GPA, tu vois, comme
oui,
il
non,
peut
mais,
y avoir
mais,
sur l'avortement.
Évidemment, mais ce qui est certain, comme je te le disais, c'est que moi je connais beaucoup de gynéco-ops qui ont des patientes et des patients qui vont faire ça à l'étranger et qui les aident.
Ah, il les aide.
Mais oui, on va pas se cacher les trucs, qu'il les envoie à tel ou tel endroit pour le faire.
Donc il les conseille, qu'il leur dit comment,
mais bien
comment
sûr,
ça se passe.
Quelle hypocrisie. Mais bien sûr, c'est pas l'hypocrisie.
Ouais, mais c'est, que c'est complice de quelque chose.
Si tu veux, c'est la médecine, elle est pas noire, elle est pas blanche, elle est pas, si tu veux, c'est t'es toujours dans des zones grises, souvent. Parce que tu dois individualiser ton soin, parce que tu dois appréhender la problématique de la personne que tu as en face de toi, parce que tu dois soupeser à la fois son malheur, ses doutes, etc. Et c'est comme ça que tu tu soignes, en construisant le soin de la personne en face. C'est pas juste en disant, non, monsieur, vous n'avez pas le droit, etc.
Joël,
la pédagogie,
on ne pourra jamais arriver à un truc tout noir, tout blanc, où on va tous être d'accord sur ce plan-là. Je pense que c'est un choix que tu fais et que tu vas encadrer. Je pense que c'est ce qu'ont dû faire les États-Unis. Tu fais un choix et tu l'encadres de mille manières possibles. Pour pas que ça déborde, et c'est la même chose qu'on voit avec l'euthanasie. Tu vas aller te donner la mort en Belgique ou en Suisse, etc. Et ce sera reconnu par la France. Le pays va jamais dire, bah comme il est parti mourir en Belgique, du coup il y a pas d'acte de décès. Pour nous, il est pas mort. Non. Et c'est la même chose pour les enfants. Ils sont nés ailleurs, mais on bah on reconnaît leur existence et leur identité.
La directive européenne est bien est faite là. Il y a un cadre, comme tu dis, il faut un cadre. C'est évident pour éviter le pire. Et encore une fois, après c'est la pédagogie, c'est.
On va regarder ce que vous en pensez. GPA de la traite d'êtres humains. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous êtes plutôt oui ou plutôt non ? On va voir le résultat final. On en a parlé pendant 20 minutes. C'est plutôt oui pour vous assimiler ça à de la traite d'êtres humains. Et on a bien précisé ce que disait cette directive européenne. 80% de oui. Allez, on va passer par le 32-16 maintenant, retrouver Karim, qui est avec nous, qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour mon cher Karim.
Oui, bonjour.
Alors attention, c'est le moment important. Vous avez été tiré au sort parce que vous avez envoyé chance par SMS au 732-16.
Super.
Mon cher manager en assurance. Je prends le tableau. Sur le tableau, il me reste 4 et 4, 8, 11 tickets. D'accord ?
D'accord.
Vous me demandez de prendre un ticket, lequel ? Alors j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on y va.
Allez, on va prendre le 4.
Le 4, allez, go, on prend le ticket 4. Tiens, je vais laisser Bruno Pomar le gratter.
Non, une main innocente. Oh, là,
pas
la mienne, c'est pas une main innocente.
Non, non,
il vient des
normalement,
toute la journée.
Il est tout sauf innocent, lui.
Alors là. Attention, je vais gratter. Et mon cher Karim, vous gagnez 130 euros.
Waouh.
Ah bah c'est bien.
C'est bon week-end, Karim.
C'est pas mal pour le week-end.
Ça permet d'aller
manger.
Mais c'est bien quand même.
Bah, c'est toujours un peu d'argent pour, par exemple, aller dîner au restaurant ce soir.
C'est le prix du parking que j'ai payé à Orly.
130 euros pour l'ami Karim. Alors je sais qu'il y avait jusqu'à 26 000 euros. Vous contenterez de 130,
camarades. Vous avez bien le couteau dans la plaie.
Karim, vous les
auriez pu gagner 26 000, Karim.
Vous les investissez, ça vous rapporte 26 000.
Le ticket de 26 000 se rapproche, puisqu'il y en a de moins en moins, là.
Bien sûr.
Pour les prochains.
Non, mais en tout cas, super. Merci.
Il en reste combien les tickets?
Je vous en prie, vous avez juste envoyé un SMS, ça vous permet de gagner 130 balles.
Il en reste 10 tickets.
Il en reste
10 tickets.
Il a raison.
Voilà. Ça fait
un plein. Oui, c'est vrai.
Ça fait un plein.
Ouais. Ça vous plaît avec quand tu vois la voiture
de Ferrari, non ?
Non, mais là, il y a une chance sur 10. Ça se rapproche.
Bien sûr. Et Karim, juste avant d'en finir avec vous, je vais profiter que vous soyez là pour savoir si votre prénom vous a posé des problèmes pour avoir un boulot ou pas.
Écoutez, en toute honnêteté, j'ai eu cette chance de ne pas jusqu'à maintenant en avoir.
Pourquoi la chance ?
Oui, parce que dans mon entourage, ça s'est marqué. Et malheureusement, certains en ont.
Est-ce qu'ils ont dû changer ça sur leur CV ou ruser ?
J'ai un ancien collègue qui a dû changer de nom parce que c'était difficile. Il travaille dans la sécurité informatique et effectivement, il a complètement changé son prénom.
Eh bien justement, je vous remercie Karim d'avoir été avec nous, d'avoir répondu en toute franchise. Les 130 euros arrivent très vite sur votre compte pour que vous puissiez faire un plein.
pour votre voiture. Vous, vous pouvez jouer, encore envoyer chance par SMS 732-16 pour jouer tout à l'heure avec, avec Estelle. Il reste les tickets 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La possibilité de gagner jusqu'à 13 000 euros et d'avoir les tickets qui doublent aussi et pouvoir remporter les 26 000 euros. Donc envoyez chance par SMS au 732-16. Et dans un instant, pourquoi j'ai posé cette question à Karim? Parce qu'il y a eu le témoignage de Grégoire ce matin avec Apolline de Malherbe sur RMC, où il racontait toutes les difficultés qu'il y a à trouver du travail quand on est... quand on a un nom, un patronyme à consonance arabo-musulmane. Bah écoutez, venez en discuter avec nous. À tout de suite, il dit on doit cacher nos origines pour trouver du boulot. Ça existe encore en 2024.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Venez discuter, venez débattre avec les GG tous les jours entre 9h et midi au 32-16, bien sûr. On va parler maintenant des prénoms ou des noms qui ont une consonance qui pourrait ne pas correspondre à certains critères. On va dire ça comme ça.
RMC, les grandes gueules.
J'ai forcé le trait, j'ai exagéré, mais pas tant que ça. Quand on se réfère au témoignage qu'on a entendu ce matin sur RMC avec Apolline de Malherbe. Les musulmans, on a l'impression d'avoir le sida. On doit changer de nom, on doit changer de prénom. C'est ce qu'a dit Grégoire lorsqu'il s'est expliqué avec Apolline de Malherbe. Écoutez.
J'ai changé, on va dire, de prénom, d'usage.
D'accord.
J'ai choisi un prénom qui passe beaucoup plus facilement que mon prénom initial. Et à un moment, on en a marre qu'on vous renvoie à vos origines, à votre religion. Aujourd'hui, quand je me présente aux gens, je me présente avec le prénom que j'ai choisi, Grégoire. Qui me permet, en fait, de pas faire déballage de qui je suis, d'où viennent mes parents, l'extrait 2B de mon casier judiciaire. Mmh. Est-ce que je suis musulman? Si je suis musulman, est-ce que je suis intégriste? Est-ce que j'ai des bouteilles de gaz dans mon coffre? Quand je passe des entretiens d'embauche, quand au bout d'une heure et demie d'entretien, à la toute fin, on vous dit, mais du coup, votre nom de famille, c'est de quelle origine? Ah oui, vous êtes croyant, vous faites le ramadan, et si on vous traite de bougnoule, ça vous pose des problèmes au boulot? Aujourd'hui, sans déconner, on vit à une période où nous, les musulmans de France, on a l'impression d'avoir le sida, et on le cache.
Voilà, témoignage assez fort ce matin d'un homme en colère, Grégoire, qui doit cacher son prénom et qui raconte son vécu. Donc c'est pour ça que nous voulions en parler avec vous, bien sûr, dans les GG, dans les grandes gueules. Alors, est-ce que vous le comprenez? Est-ce que ça vous est arrivé? Joël, Jérôme, Bruno. Bruno, je te voyais lever les yeux au ciel en même temps que tu l'écoutais.
Ouais, parce que j'ai l'impression que de la façon qu'il parle, je suppose qu'il a été meurtri, évidemment, ce garçon, pour changer de prénom. Mais en même temps, je pense pas que ce soit systématique. Moi, il faut pas faire une généralité de tout. Au même titre que les entrées de boîte, c'était à un moment donné avec, ou les CV anonymes, comme on les a mis en place à un moment donné. Je crois qu'il faut pas faire une généralité de tout. Et j'entends que ce monsieur ait été choqué par le comportement des gens qui ont voulu l'employer, mais je pense pas qu'à chaque fois qu'on veuille embaucher quelqu'un, moi j'embauche des jeunes dans mon assos et j'ai des amis qui embauchent, on demande pas au gars si il est intégriste, si il est musulman ou s'il est croyant de je ne sais quoi, enfin bref, voilà, n'allons pas encore dans les extrêmes, je pense pas que ça soit
pas
une généralité.
D'un témoignage, une généralité.
Oui, exactement, c'est exactement ça.
Joël?
Évidemment, heureusement encore que tous les entretiens ne se passent pas comme ça. Néanmoins, il y en a un certain nombre qui se passent comme ça.
Oui.
Je suis pas musulmane et pourtant on m'a posé la même question. Je me rappelle d'une expérience où j'attendais dans la salle que le recruteur vienne nous chercher. Il y avait moi, un monsieur et une autre dame. Les deux étaient blancs et donc elle est arrivée et elle avait une feuille. Elle a dit Joël Dagosséry. Donc elle m'a pas regardée, elle a regardé la dame qui était à côté. Et donc je me suis levée et elle a eu un mouvement un peu de ah, c'est elle. Bon, c'est pas grave, ça arrive. On a fait l'entretien et à la fin de l'entretien, elle a pas pu s'empêcher de me dire sinon votre nom c'est
d'où?
C'est de quelle origine? C'est italien? Je dis non, pas du tout.
Dagosséry.
Oui, parce qu'en fait, comme c'est pas très
Florence.
C'est pas dans l'imaginaire de gens, ça fait pas africain selon eux, alors que c'est un prénom, c'est un nom de famille africain, vraiment typiquement ivoirien.
Ah ouais.
Elle m'a demandé, ça vient d'où? Je lui ai dit, Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, j'aurais pensé italien ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit, non, pas du tout. Donc, elle n'a pas pu s'empêcher parce qu'elle a été étonnée que ce soit moi, Joël Dagosséry. Deuxième expérience aussi que j'ai vécue. Et là, c'était dans du recrutement. Donc, on avait reçu, c'était à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Donc, les CV arrivaient par courrier. Et donc, la personne qui ouvre les courriers reçoit. Et moi, j'étais là, je récupérais le courrier au travail. Et elle lit le CV et c'était un nom arabo-musulman, comme on dit. Et donc, c'était un monsieur qui demandait une alternance, qui avait un master, qui avait un master. Et elle a dit, non, ça, on prend pas. Et elle l'a mis à la poubelle. Je l'ai récupéré, je lui ai dit, mais ça va pas ou quoi? Je lui ai dit, mais il bosse ce type. il fait des études, il est en master. Tu viens de mettre son CV à la poubelle. Enfin, j'étais outrée. Et elle a dit, ouais, mais eux, ceux-là, on n'en veut pas. Je lui ai dit, mais c'est horrible. Je l'ai signalé à la direction parce qu'en fait, c'était pas la pratique de l'entreprise, pas du tout. Mais tu te rends compte? Je me suis dit, mais combien de CV elle a mis à la poubelle comme ça? C'est incroyable. Et franchement, c'est hyper choquant. Donc, moi, je comprends le témoignage de Grégoire. Je pense qu'il y en a plusieurs qui le rencontrent. Et sans compter ceux qui partent, parce que ça aussi, il faut en parler, ceux qui partent à l'étranger parce qu'en fait, ils en ont assez du climat français. Il y a un phénomène que je rencontre également qui n'existait pas avant. Par exemple, avant, quand vous aviez la famille qui faisait ses études, moi pour moi, en Côte d'Ivoire, elle venait terminer ses études en France. Oui. Ah, c'était quasi systématique pour les personnes qui faisaient des hautes études, médecine, ingénieur, etc. J'en vois quasiment plus. La dernière génération, donc génération 90, parce que j'ai un cousin, ils partent directement direction Canada, États-Unis. Il n'y a plus ce passage par la France. Pareil pour les Antilles. Attention, beaucoup d'Antillais venaient ici terminer leurs études. Eh ben, pareil, ils commencent à directement faire une demande pour aller Canada, États-Unis. Et aujourd'hui, on ne le voit pas, ça a l'air un peu transparent, mais on va regarder les résultats dans 15 ans, dans 20 ans de cette expatriation entre guillemets ou de ces talents qui ne choisissent plus la France et qui choisissent Canada, États-Unis ou Suisse.
Jérôme.
Bon, dans le secteur de la santé, c'est pas un problème que l'on connaît vraiment, ça doit exister certainement. Maintenant, on a vraiment une très forte proportion de gens, les soignantes, les infirmières, les médecins qui sont d'origine étrangère. On a les fameux Padoue, les gens qui sont les praticiens hospitaliers à diplôme en Union européenne, dont on sait que le président Macron s'était engagé à arranger la situation puisqu'ils sont encore sous-rémunérés par rapport à leurs consoeurs ou leurs confrères qui ont leur diplôme, eux, d'origine européenne. Mais nos établissements, en particulier les hôpitaux périphériques, ne tournent que grâce à eux. C'est-à-dire tu as des établissements où tu as 90% de diplômes hors Union européenne. Donc, dans le monde de la santé, il y a peut-être moins, et c'est bien logique.
Il y a des tuyaux consignants.
Peut-être moins cette problématique, mais qui doit certainement exister et qu'il faut dénoncer. On se souvient quand même, il y a eu des campagnes de CV comme ça qui étaient, masquées de CV anonymes.
Oui,
oui. C'était déjà cette problématique qui était mise en avant, quoi. Et qui a tendance probablement à s'accutiser en France, ouais.
C'est bien qu'on en fait, le problème, c'est que ça manque un peu d'études, pardon. Hein. On n'a pas d'un témoignage, en faire des généralités. C'est comme l'histoire, je suis sûr qu'effectivement, il y en a qui fuient la France, mais on ne sait pas, il y a un livre qui est sorti, il n'y a pas un chiffre. Donc c'est que du ressenti.
Oui, c'est ça.
Moi, c'est ça qui me gêne un peu. C'est-à-dire qu'il faut quand même, à un moment donné, que ça soit avéré, qu'il y ait des études, des chiffres, qu'on sache précisément de quoi il s'agit. Si c'est uniquement sur du ressenti, bien sûr, sans doute, je pense que les gens quittent la France, c'est pas forcément des questions de racisme, c'est des questions aussi de problèmes d'ascenseur social en France. On sait très bien que l'ascenseur social est cassé, que l'école ne fait que reproduire les inégalités, qu'il faut mieux être enfant de cadre et surtout de prof pour réussir à l'école, et que l'école, on a ce mot d'égalitarisme, etc. En fait, ne, contrairement à ce qu'on pense, ne corrige pas tout ça. Elle devrait corriger tout ça, ne corrige pas. Voilà. Donc, je suis pas sûr que ça soit toujours lié, ça doit exister, bien sûr. Le racisme existe.
Il y a quand même une influence de ce qui se dit sur les ondes et sur certaines chaînes à longueur de journée, certaines chaînes qui en ont fait commerce de ça, quoi. Forcément, tu fragilises les gens dans leur façon de voir l'autre, quoi. Et donc, dès l'instant où ils voient quelqu'un qui porte un nom à consonance étrangère, ils ont l'impression qu'il rentre directement dans le prisme qui est renvoyé pour ces chaînes-là.
Oui, mais tout le monde est un peu responsable de ça. Tout le monde est responsable de ça, parce que c'est ça qui est contradictoire, c'est qu'on est aussi dans un moment où tout le monde veut à tout prix mettre en avant son identité.
Oui.
Moi, je suis d'une génération où je ne savais pas qui était musulman, juif, catholique. On ne parle jamais de religion. Maintenant, il faut à tout prix savoir si tu es musulman, juif, catholique ou pas, machin. Donc, on ne peut pas à la fois vouloir à tout prix vouloir mettre son identité en avant et penser que cette identité te résume complètement dans ta et puis derrière, être surpris qu'il y a des préjugés qui arrivent et des rejets. Moi, je suis assez d'accord que on devrait, par exemple, c'est assez nouveau qu'on dise. C'est assez nouveau aujourd'hui qu'on définisse, par exemple, les Arabes comme des musulmans, parce qu'il y a des Arabes qui sont pas musulmans, mais maintenant, aujourd'hui, les Arabes, c'est musulmans. Ben oui. Donc, pourquoi on en est arrivé là?
Non, arrête, Olivier. Là, c'est comme si, en fait, c'est la faute de la victime. C'est un peu comme si moi, je vais à la police.
Non, je n'ai pas dit la faute, j'ai dit qu'il y a des contradictions.
Le type m'a violée, bah ouais, mais vous comprenez, madame, avec la mini-jupe que vous portez, c'est exactement le même raisonnement
non,
que,
c'est pas
que
du
tu me
ça.
Tiens.
Non, si, c'est pas si, c'est les discriminations. Si tu veux t'intégrer quelque part, mais, à un moment donné, il faut aussi si une certaine être, forme d'assimilation.
Oui, et si tu ne veux pas être violée, bah, à un moment donné, il ne faut pas mettre une mini-jupe.
Savoir qu'il y a même.
Alors, le fils, pardon, le parent d'Aldo Platini, il a appelé son fils Michel, il ne l'a pas appelé d'un prénom italien.
Mais
c'était comme ça à l'époque.
Il faut oui, mais c'est pas vrai que c'est récent ce truc. T'as des gens de la génération, par exemple, de Mourad, donc qui lui, je crois qu'il a 60 ans, Mourad, ouais, et qui explique très bien qu'on voulait pas un arabe pour un appartement ou pour un travail. Pas d'arabe. Avant, ça s'écrivait, c'était direct. Aujourd'hui, c'est un petit peu caché. Pas d'arabe chez nous, etc. Donc c'est pas,
non, mais
c'est pas nouveau.
Il y a toujours des connards racistes.
Oui, mais donc quand tu dis que c'est parce que maintenant on revendique une certaine identité
non,
que
je
ça
dis
a apparu,
que s'il y a une
non,
contradiction,
c'est pas vrai.
On est dans une revendication. Non, parce que je dis que pendant très longtemps, les immigrés qui arrivaient en France, les vagues italiennes, polonaises, ils prenaient des prénoms français, etc. C'est, dis le fils d'Aldo Platini s'appelait Michel parce que à l'époque, il pensait que pour mieux s'intégrer, il fallait que la personne ait un prénom.
Ouais, bah,
on parle des prénoms.
Oui, donc sur la théorie de Zemmour.
Mais c'est pas une théorie, c'est une réalité.
Oui, mais
Zemmour,
donc,
c'est factuel.
Oui.
Pardon, Coppa,
oui,
qui était
d'accord.
Le grand-père polonais, il s'appelait Raymond, son père s'appelait François parce que les parents polonais avaient donné à leur fils un prénom français parce qu'ils pensaient que ce serait la meilleure façon de s'intégrer.
Pourquoi? Parce qu'on a tendance à l'oublier avec les temps qui passent. Mais les vagues d'immigration polonaise, italienne ou espagnole ont vécu un racisme terrible en France.
Oui.
En arrivant, c'est
pour ça
que c'est assimilé. Donc on est la même chose.
C'est la même chose.
N'oublie pas quand même que notamment les réfugiés espagnols, on les a foutus dans des camps au départ. Hein.
Ouais, on l'oublie. Ne faisons pas une généralisée. Le fait de changer son prénom ou pas.
Des prénoms,
moi, j'y crois pas tant que ça. Je veux dire, la mixité, si on peut appeler ça, dans les entreprises, elle est présente. Et d'ailleurs, il y a souvent des référents au niveau des ressources humaines qui font attention à ça. Heureusement, d'ailleurs.
Mais bien Joël, sûr, on ne dit pas qu'il n'y a aucun musulman qui est recruté en France. C'est vraiment pas le cas.
Oui.
On observe juste une tendance de musulmans qui craignent le fait que.
Mais c'est la vérité.
Elle se repose sur quoi, cette vérité? Moi, j'aimerais savoir.
Mais elle repose sur l'ambiance de la France.
Oui,
elle repose sur la montée du RN.
Si c'est
quand le musulman est toutes les trois secondes à la une de telle ou telle émission, de tel ou tel journal. Elle repose sur une vérité. Enfin, tu fais que c'est un peu comme la même chose qu'on disait. C'est un sentiment d'insécurité ou insécurité. C'est la même chose.
Justement, dans un instant.
On peut pas s'étonner que les musulmans craignent de ne pas être recrutés ou aient peur de
c'est comme le sentiment de sécurité. C'est un sentiment de quoi? Explique-moi. Et tu vas dire, il faut les chiffres. Moi, c'est les chiffres.
Alors, dans un instant, on aura deux témoignages, deux personnes avec nous. Yaya, du côté des Bouches-du-Rhône, qui est chef d'entreprise, qui n'a jamais voulu changer son prénom. Ça n'a pas toujours été simple. Et on aura Bertrand, dont le premier prénom est africain. Mais il est là en tant que Bertrand au 32-16. Allez, à tout de suite avec les GG.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Grande gueule avec vous, bien sûr, au 32-16 pour discuter, pour témoigner avec Bertrand, avec Yaya. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Bienvenue. Discrimination, est-ce que vous avez déjà, comme Grégoire, changé de nom ou pas? Alors, dites-nous.
Alors, mon histoire est assez particulière, c'est que j'ai changé de nom sans le vouloir.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que donc j'avais mon premier prénom qui était un prénom africain et le deuxième prénom qui était un prénom français. Et ben j'avais une carte de résident en France, donc depuis des années, donc j'avais toujours eu dans cet ordre-là. Mais j'ai fait ma demande de naturalisation française en 2005. Et en 2005, au moment où j'ai reçu les éléments de ma naturalisation, mon deuxième prénom, Bertrand, qui est devenu mon premier, et mon nom africain, et mon prénom africain est devenu le deuxième.
C'est quoi le prénom africain qu'on comprenne?
Alors, j'ai pas voulu le donner exprès parce que c'est un sujet qui est tellement... Ça a été dur pour ma mère de l'accepter, l'idée, parce qu'elle a voulu que je fasse toutes les démarches pour que ça reparte dans l'autre sens et autres, tout ça. Donc, je préfère ne pas le donner ici pour pas qu'elle me reconnaisse. Je sais qu'elle écoute RMC, donc voilà. Donc, du coup, je préférais ne pas le donner.
Mais est-ce que, du coup, vous pensez que ça a facilité les choses dans votre carrière, dans votre vie ou pas, alors?
Je vais être honnête, ça a changé beaucoup de choses. Mais clairement, ça a changé énormément de choses. Parce que clairement, le deuxième prénom n'apparaît, il n'apparaît que sur, on va dire, seulement un carte d'identité, mais le reste, ma carte vitale ou autre, on ne voit que mon, que le prénom Bertrand. Lorsque j'ai postulé de nouveau, j'ai supprimé mon ancien LinkedIn, j'ai créé un nouveau LinkedIn avec ce prénom, j'ai recréé sur l'APEC où j'ai recréé un nouveau compte avec le prénom Bertrand, et ben ça m'a permis aujourd'hui d'avoir accès ou passer des étapes professionnelles.
Mais vous pensez, alors vous avez 47 ans, ça s'est produit il y a quelques années, vous pensez qu'aujourd'hui c'est toujours aussi problématique ou pas pour la nouvelle génération?
Eh ben, je pense même que ça s'est empiré. Je serais d'accord avec Joël en disant que l'ambiance, on va dire, actuelle, où la libération de la parole un petit peu sur certains sujets, on ne demande pas d'être que ça soit caché, sur certains sujets, fait que, ben, je pense que ça devient encore plus dur pour la nouvelle génération. Et je peux comprendre et je peux entendre que certains puissent se dire, j'ai fini mes études, je vais aller au Canada, parce que j'ai la chance de pouvoir y aller régulièrement.
Alors, Bertrand, puisque vous nous avez raconté votre expérience personnelle, je vous propose de rester et d'écouter Yaya, qui est dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes chef de projet, Yaya est chef d'entreprise. Bonjour Yaya.
Bonjour.
Alors, vous, en revanche, vous n'avez jamais changé de prénom?
Non, j'ai jamais, parce que je suis très fier de mon prénom. C'est ma grand-mère qui me l'a donné, donc...
Alors, c'est de quelle origine, Yaya?
Je suis marocain.
D'accord. Et est-ce que ça vous a posé des problèmes pour avancer professionnellement?
Alors, oui, j'ai juste pour expliquer rapidement, moi, à partir à 20 ans, je suis parti vivre en Angleterre pendant 7-8 ans. Oui. Et quand je suis revenu, j'ai ouvert ma société. On cherchait un partenaire. Je me suis associé avec une personne et on a cherché un partenaire financier. Donc, on a appelé plusieurs banques. C'était moi qui étais en charge d'appeler les banques. Donc, j'ai appelé les banques. Et à chaque fois, on me refusait les rendez-vous parce qu'on me disait que la société que je voulais ouvrir, ça ne correspondait pas. En fait, c'était un milieu qui était trop dangereux dans le sens financier. Il y avait eu trop de fermetures. Et donc, on ne donnait pas suite. Et donc, j'étais un peu dépité. Je dis, vas-y, appelle-toi. Et quand il a appelé, il a eu les rendez-vous. Mais vraiment, les mêmes banques. Oui. Les mêmes banques, je peux pas citer les banques parce que voilà, mais c'est vraiment les mêmes banques. Et moi, je veux pas glorifier le système anglais, mais c'est vrai que mes premières expériences professionnelles étaient en Angleterre et j'avais pas été confronté à ça, pas du tout. Et du coup, quand je suis revenu, je me suis même pas posé la question de ça, est-ce que ça allait poser un problème.
D'accord. Donc ça veut dire qu'on a une mentalité qui est plutôt rétrograde en France par rapport à ça, quoi.
C'est ce que je trouve.
Raciste?
Je pourrais pas dire que la France est raciste parce que je le vois au quotidien et à travers le travail que je fais, je côtoie beaucoup de gens de divers horizons et de manière générale, dire que la France est raciste, ça serait vraiment trop fort. Qu'il y a une montée de la différence, oui. Mais je ne pourrais pas dire qu'il y a du racisme. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en tant que musulman, il est de plus en plus dur de se plaindre de ça sans pour autant être accusé de victimisation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Chaque fois qu'on veut parler de notre religion ou de dénoncer quelque chose, la première chose qu'on nous dit, la victimisation. Alors qu'on veut juste notifier ce qui se passe dans notre vie au quotidien. Mmh. On n'est pas les plus à plaindre. Et de manière générale, on vit quand même plutôt bien. Mais c'est vrai que on sent que dès que l'on touche dès qu'on veut mettre en avant notre religion ou autre chose, on est directement catalogué.
Mais pourquoi mettre en avant sa religion? C'est ça aussi. Pourquoi la religion a pris autant d'importance dans la vie publique? La religion, c'est une affaire privée, c'est un choix intime. Et pourquoi est-on dans une société où on met aujourd'hui autant en avant les religions? Moi, je pense que ça crée beaucoup plus de conflits et de problèmes qu'autre chose. Si chacun, finalement, était beaucoup plus discret et pudique là-dessus, je pense que ça irait mieux.
Je pourrais entendre ça. Mais alors pourquoi on nous renvoie toujours à nos origines
et à je suis d'accord. C'est insupportable de renvoyer toujours les gens aux origines. Mais il faut aussi à un moment donné, il faut aussi dépasser ses origines. On n'est pas seulement une origine et on n'est pas seulement une origine. On n'est pas seulement. On est né quelque part. Mais on est citoyen français, justement, on dépasse son origine et on est citoyen français.
Dis ça à la banque, puisque Monsieur Yaya, il a essayé de dépasser son origine. Il a créé son entreprise et la banque, a eu des problèmes. Donc, c'est marrant quand on nous dit à chaque fois, faut dépasser. On les dépasse nos origines. Et je pense que il est parti en Angleterre. Mais quand tu es là et que on te dit c'est bloqué pour toi et que c'est ton pote qui appelle et que c'est ouvert, excuse-moi, t'as beau dépasser tes origines, dis à l'autre de dépasser mes origines, pas à moi. Donc, je sais pas, Yaya, si dans votre... Yaya, il est toujours là?
Oui, bien sûr, oui, Yaya, je vous écoute.
Je sais pas si vous avez connu ça, moi j'ai entendu pas mal de gens, c'est dans mon entourage, donc qui ont créé des entreprises et qui pensaient que c'était mieux de s'associer avec une personne blanche pour pouvoir passer... certains, voilà. Je crois que j'en ai 4 ou 5 dans ma tête, là, comme ça, qui me viennent, qui ont créé leur entreprise, mais qui se sont dit, vaut mieux que je m'associe avec mon pote blanc, etc. Mais c'est pas grave si tu fais pas grand chose, mais mets-toi dans la société, comme ça, je peux avoir un rendez-vous à la banque, un prêt par-ci, etc.
Sûrement, mais n'en faisons pas encore une fois une généralité.
Ce que tu ne veux pas comprendre, c'est que c'est une stratégie pour naviguer. Des gens mettre en place des stratégies pouvoir naviguer parce que en fait leur seule volonté et leur seule capacité de travail ne suffit pas, et ça c'est un problème. Excuse-moi, je dis pas que c'est partout, bien sûr, mais ça existe.
Yaya, comme on avait Bertrand à l'instant, 47 ans, vous avez 40 ans et vous pensez que la nouvelle génération sera plus enclin pour certains à vouloir partir qu'à rester, à briser les tabous et le plafond de verre ici en France, alors
je trouve qu'on essaie de se battre de plus en plus, mais par contre, pour revenir à ce qu'a dit Joël, ça dépasse même le cadre professionnel, ne serait-ce qu'un couple mixte, ouais, où avoir une personne avec le nom français et une personne avec un nom africain, maghrébin ou africain, eh bien on mettra d'abord en premier le nom français, et ça c'est pas normal. Parce que comme vous dites, on est français, on est tous français. Moi, je suis né en France, je suis très fier de français. Quand j'étais en Angleterre, j'ai jamais dit je suis marocain.
Oui, alors là, je vais vous dire, Yaya, j'ai le contre-exemple, très récent, très proche de moi, d'un jeune homme qui est bien François de ses Français, et à qui on a dit, t'as pas les codes, oui. tu peux pas venir chez nous, c'est pas possible. Et à qui, parce qu'il était bien français de souche, et il avait pas les codes pour aller dans une famille qui était de l'autre côté de la Méditerranée.
De sa copine,
à qui on a dit non,
ça arrive aussi.
Ça s'arrête là.
Le rejet universel.
Ça a été la fratrie ou le pater familias qui a dit non, c'est pas elle qui décide et c'est pas toi qui décide non plus. Vous voyez aussi, Yaya. Donc on a exemple et contre-exemple.
Mais ça c'est évident.
Je suis d'accord avec vous et je n'ai jamais dit et je ne pense pas que le racisme n'est que dans un sens.
Bien sûr. Mais tout ça pour dire qu'on arrive finalement, comme le disait Olivier, on était dans une société qui était française, qui était plutôt universaliste, où on se fondait dans un modèle.
Et maintenant, on va vers du communautarisme.
On arrive plutôt vers un modèle communautaire qui permet finalement une existence un peu individuelle et égoïste, où on ne sort pas de ses codes finalement.
Moi, je pense qu'il faut justement, si on veut être citoyen français, on dépasse ses origines, on a chacun des parcours, mais on n'est pas pieds et poings liés à ça aussi, c'est-à-dire que heureusement on
merci
est
Yaya,
autre chose que
merci
d'où
Bertrand, fin de la discussion. Est-ce qu'on a une petite consultation là ou pas, une petite voir comment ça se passe? On a rien, c'est fini,
c'est terminé, ils sont tous partis au week-end.
Il y en a, ils ont les planches de surf, les vélos, les piscines gonflables.
Mais c'était 5 minutes, ils sont déjà partis.
Nous on en connaît une qui est déjà partie depuis hier aussi, c'est pour ça que c'est Rémi qui s'y colle. Bonjour mon cher Rémi.
Salut Alain, salut les grands gueules.
Jean fidèle au poste.
Dans un instant, et à la radio aussi, au poste radio, on va parler d'Omar Sy qui appelle à se mobiliser contre l'extrême droite. Est-ce que vous êtes prêts à le suivre? Vous nous appelez au 32-16. Les taux de résolution en chute libre, agression, cambriolage, vol non résolu.
Tu peux garder Bruno Pomar, que fait
hier.
La police et la gendarmerie sont-elles dépassées? Et puis près de 150 000 personnes, vous en parliez à l'instant, ont changé de nom ou de prénom depuis 2022. Est-ce que vous les comprenez? On réagit, on participe, on débat dans Estelle.
Qui est avec toi?
Perico Légas, Juliette Briens également, et puis j'oubliais.
Le naufrage.
Tu sais quoi, je commencerai par lui. Bah oui, Yaël, évidemment, Yaël Mélule, c'est l'avocate.
Les bonnes émissions avec
Rémi.
Elle a démissionné.
Elle est partie avec les autres.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.